A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Au premier coup d'œil, c'est une beauté eurasienne. Et à la première écoute, ça se savoure comme un bonbon pop acidulé. Et puis, après digestion de la face A et B, on finit par s'attacher à cette brune qui cache son prénom derrière un nom de groupe. The Rodeo à la scène, Dorothée Hannequin à la ville. Et pendant que je vous parle, il y a déjà une petite folie qui est prête à tourner sur le pick-up dans Sol majeur. C'est son troisième et nouvel opus, intitulé, attention les ballons, Thérianthropie Paradis. Je vous laisse cogiter et même fureter dans le dictionnaire, mais à mon avis, c'est pas là que vous trouverez le pourquoi du comment de sa présence en sol majeur. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'une beauté eurasienne peut dissimuler derrière ces trois adjectifs ? Métisse, rebelle et animal. Seriez-vous une énigme ? Dorothée Hannequin, bonjour.
Bonjour, je dirais que rien que le choix de ce nom d'artiste est une énigme. La plupart des gens pensent que The Rodeo, ça évoque un groupe, puisqu'il y a le The anglais. Et puis, on ne sait pas si Rodeo, ça évoque que les grands espaces américains, ou si c'est la musique country. Donc, depuis que j'ai ce nom, ça pose beaucoup de questions. Et donc, c'est ça la première énigme par rapport à mon nom d'artiste, en tout cas.
Et vous aimez bien que ça pose des questions ?
Oui, parce qu'en plus, ça me fait rire d'expliquer que c'est aussi l'anagramme de Dorothée. Donc, après, les gens sont assez « Ah, c'est super, c'est bien trouvé ». Voilà.
On ouvrira votre album tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on entende votre voix chanter tout de suite dans un morceau qui s'appelle L'Orage. C'est un morceau que j'aime bien. Et alors, je me demandais s'il s'agissait d'un orage amoureux. Qu'est-ce que vous diriez de cette chanson ?
Alors, L'Orage, alors ce n'est pas un orage amoureux, c'est plutôt. En fait, j'ai écrit cette chanson suite aux événements des attentats passés, en fait. Ça parle pas du tout.
À
Paris, pardon, au Bataclan. Finalement, c'est plutôt sur la suite des attentats, comment on en ressort, la médiatisation, la surmédiatisation, ce qu'on a envie à ce moment-là, c'est de serrer ses proches dans les bras, Ouais, c'était comme un trop-plein d'informations. Et c'était juste ce sentiment que j'avais là, à ce moment-là, en fait.
Dorothée Hannequin, alias The Rodeo, pour en sol majeur.
S'approcher des batailles, pour le frisson, le feu de paille, effleurer du bout des doigts ce que l'on ne désire pas, brûler de tout savoir, de l'horreur et de l'effroi, je le laisse à ceux qui meurent de trembler d'émoi. Seras-tu là pour m'aider, car j'ai si peur.
The Rodeo, alias Dorothée Hannequin, qui aime bien apparemment les orchestres symphoniques comme ça, jetés en plein Far West. Vous aimez bien peut-être le cinémascope. Puis rangez votre cheval dans votre sac à dos à un moment donné pour finir la chanson à pied. Vous voyez, ça, c'est les images que moi j'ai quand je vous écoute.
Oui, Anne, c'est assez cinématographique. J'ai commencé par de la folk assez épurée. Et aujourd'hui, j'en suis venue à faire des choses même bien plus orchestrées et arrangées. Oui.
Et vous avez des images quand vous composez ?
Oui, complètement. D'ailleurs, on pense qu'il y a une horde qui joue à ce moment-là. Évidemment, on est dans un groupe plus restreint. Mais ouais, ça ajoute, les images ajoutent à la musique.
Quelles images alors sur cette chanson ?
Déjà, ça s'intitule L'Orage, mais des images de foule, de liesse, de sirènes, de pleurs, de gens. Oui, c'est plein d'images.
En tout cas, quelque chose me dit qu'à part le Far West, un genre de Far West moderne, et puis les orchestres symphoniques, vous aimez bien aussi les abécédaires. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous parle de pupille de la nation ?
Mon grand-père était pupille de la nation. Donc mon grand-père était d'origine vietnamienne et il a fait ses études au Cambodge. Il était professeur de français et de philosophie. Et donc il étudiait même pour l'élite cambodgienne ces deux matières-là. Et donc il a grandi avec un prénom et un nom français.
Qui est ?
Donc c'est Antoine Lameuse. Voilà.
Ouais. Lameuse, pourquoi Lameuse ?
Alors, je ne sais pas la raison, mais il s'avère que je crois pour certaines pupilles de la nation, on choisissait par rapport à des rivières ou un pont. Voilà. Et là, c'était Lameuse.
Alors tout ça se passe dans la période des anciennes colonies d'Indochine française, hein, oui. J'imagine. Quand vous dites qu'il était d'origine vietnamienne, c'est-à-dire ?
Il travaillait en coopération au Cambodge, en fait. Mais il ne parlait pas le cambodgien, il était d'origine vietnamienne, mais il apprenait, comme il parlait français, puisqu'il a toujours connu le français, et il apprenait le français à des Vietnamiens.
Donc votre mère est née où ?
Ma mère est née à Phnom Penh, au Cambodge.
Et alors, est-ce qu'elle a des attaches avec le Vietnam ou avec le Cambodge, finalement ?
C'est assez curieux, parce que finalement, ils ne parlaient pas du tout le cambodgien. Ils étaient entourés en famille et puis en langue vietnamienne, quoi.
Donc ils étaient des expatriés vietnamiens.
Exactement.
Alors, votre grand-père, Antoine, vous connaissez son prénom vietnamien ou pas du tout ?
Non.
Parce que c'est toujours incroyable, l'histoire des prénoms, non ?
Ouais. Je le connais pas. Après, c'est juste que je l'ai pas retenu. Mais c'est comme ma mère, elle a un prénom vietnamien. Elle a un prénom français aussi.
Quels sont ces deux prénoms ?
Alors, Tiliu, c'est son prénom vietnamien qui veut dire « saule pleureur ». Et on lui a donné le prénom de Catherine, voilà, parce qu'elle a été chez les bonnes sœurs en France. Donc ils ont tous des prénoms, ils sont 6 frères et sœurs, tous des prénoms plutôt cathos.
Alors pourquoi est-ce que Catherine se retrouve en France finalement, après être née au Cambodge ?
Alors elle arrivait en France à l'âge de 10 ans. Il s'avère que mes grands-parents avaient souhaité une éducation française pour leurs 6 enfants.
Seule, sans les parents.
Sans les parents, voilà. Et en fait, elle a vécu sans ses parents de 10 à 17 ans à peu près. Ils passaient de temps en temps pour les vacances scolaires, parce que mon grand-père n'était pas encore à la retraite. Donc il allait après venir en France pour sa retraite.
Donc ils ont grandi sans les parents en France. Dans quelles conditions ?
Dans des conditions assez difficiles. C'était chez les bonnes sœurs en Auvergne. Ma mère m'a dit qu'elle était arrivée en janvier 60 dans le froid. Pour elle, c'était un choc. Elle ne parlait pas le français quand même. Et elle était séparée de ses parents, séparée de ses frères et sœurs, parce que son frère, évidemment, on ne pouvait pas mettre les filles avec les garçons à cette époque-là. Donc complètement seule, quoi. Et on l'appelait l'Indochinoise, d'ailleurs. Donc c'est un espèce de mélange assez curieux on ne sait plus son identité, finalement. On est d'origine vietnamienne, on a vécu au Cambodge, et puis on part en France.
Alors, de l'autre côté de l'arbre généalogique, Dorothée Hannequin, on est complètement Français-français ?
On est français-français. Mes grands-parents français viennent du Loir-et-Cher. Plus précisément autour de Blois, Orléans, Blois. Famille Hannequin, donc.
Oui. Voilà. Et comment ça s'est passé, cette rencontre entre ces deux familles ?
Ça s'est plutôt bien passé. C'est juste qu'au début, je pense que mes grands-parents français avaient peut-être une difficulté à accepter ma mère au départ. Non pas parce qu'elle était d'origine vietnamienne, mais parce qu'elle avait une première fille, ma sœur, ma grande sœur. Donc à l'époque, bon, être une femme et pas mariée avec un enfant en bas âge, c'est voilà, pour une famille catho, c'était pas super, quoi. Mais mon père leur a dit, voilà, c'est avec cette femme que je veux vivre, me marier, avoir des enfants.
Alors pendant ce temps-là, très très loin des questions d'assimilation et de métissage, vous, Dorothée Hannequin, vous avez des problèmes, des dilemmes peut-être de petite fille occidentale, hein, plutôt Chantal Goya ou plutôt Pink Floyd ?
Alors c'est vrai que mon père était plutôt branché rock, donc type Pink Floyd, Beatles, Dire Straits, voilà. Alors ma mère qui n'avait pas pu écouter de la musique quand elle était adolescente, moi elle c'était plutôt Ella Fitzgerald, Otis Redding, et puis évidemment tout ce qui était Clo-Clo, Sylvie Vartan, parce que ça c'était vraiment de cette génération. Mais j'ai été bercée par ces deux côtés-là. Puis aussi, c'est vrai que Chantal Goya, j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Bon, je rêvais de danser pour Chantal Goya. Et puis un jour, ma mère m'a amené une audition au Palais des Congrès. Et j'ai été refusée. Je m'en souviendrai toute ma vie, en fait. Ça a été...
Humiliation.
Une humiliation, quand même.
Mais vous avez opéré un crossover radical, je dirais, parce qu'après Chantal Goya, il y a eu un choc qui s'appelle Nirvana.
Oui, exactement. Adolescente, je crois que oui, c'était un peu difficile de passer à côté de ce groupe. Puis je m'enfermais dans ma chambre, je voulais faire du rock. Oui, j'étais un petit peu rebelle.
Ado difficile, vous dites, pourquoi ?
Pas très sociable, mais bon, ça c'est en général le cas de pas mal d'adolescents. Mais j'étais quelqu'un de très introverti, j'étais très renfermée, pas très bien dans ma peau, je pense.
Vous étiez promise à un destin artistique, parce que même votre mère, c'était dans ses petits papiers, l'idée de faire de vous une petite artiste, c'est ça ?
Alors elle m'a confié que c'était une chanteuse ratée, mais elle adore chanter. Et puis il s'avère qu'à un moment donné, ma mère a eu plein de métiers différents, mais elle a été aussi directrice d'une agence de casting. Et donc quand j'étais petite, elle m'emmenait à plein de castings en pensant que j'allais tous les réussir. En plus, c'était la mode, c'était très Benetton à l'époque, hein, donc ils cherchaient beaucoup les petites filles métisses. Mais j'étais trop timide, donc ça ne fonctionnait pas du tout. J'arrivais pas à prononcer même mon prénom. Donc ma mère était pas contente après, mais c'était facile. Pourtant, tu pouvais réussir à avoir cette audition. Donc je crois qu'elle est assez fière de moi aujourd'hui.
Ouais. Allez, maman. Et puis, vous avez fait une école de com et de journalisme ?
Eh ben non, enfin ça, c'était une idée quand même de mes parents. Bon, je pense que mon père aurait aimé que je sois plutôt diplomate, hein. Mais voilà, parce que j'aimais le voyage, il m'emmenait souvent avec lui d'ailleurs. Et puis finalement, ils ont eu cette idée-là de se dire, ben voilà, peut-être tu devrais faire une école de com et de journalisme. Et ce qui a fait que j'ai dû encore plus m'ouvrir aux autres finalement, hein, on est un peu obligé. Et pendant donc mes premières années, j'ai été attachée de presse surtout dans le cinéma et la musique.
Pour en arriver à chanteuse.
Oui, en fait, il s'avère que je pouvais pas tout quitter comme ça pour être musicienne. Mais quand j'ai eu mon premier contrat chez le label qui s'appelle Naïve, j'ai pu me décider de quitter en effet mon métier pour faire que de la musique. Donc ça fait depuis 8 ans maintenant.
Et si, Dorothée Hannequin, pour The Rodeo, on enlevait tout, c'est-à-dire les synthés, les batteries et les guitares ? On essaye ?
On essaye.
A
Cher ami, voici ma lettre, le courrier d'un cœur brisé sans entête, écrite aux porte-mine, un lendemain de fête. Ce n'est pas une déclaration à l'être aimé, à ton intention. Voici le sceau de cire. Dis adieu à deux âmes sœurs. Toutes mes pensées de Pompéi et bon baiser de Zanzibar. Mes vœux de fin d'année, salutations de nulle part. Je te souhaite un agréable séjour dans cette chambre où nous faisions l'amour, caché faisant foi en nous.
Une minute a cappella pour un sol majeur avec The Rodeo en privé, donc c'est Dorothée Hannequin. Cet extrait, je l'ai reconnu, de votre album Thérianthropie Paradis. On garde ce petit énigme de titre pour tout à l'heure. Vous avez une voix, je dirais, qui est posée. Vous prenez des cours de chant ?
J'en ai pris très peu, ça ne m'a pas tellement servi, je crois.
Ah oui ?
Non, je pense que j'ai travaillé ça inconsciemment. Déjà, c'est pour ça que je ne pourrais peut-être pas être comédienne, mais je parle un peu dans ma barbe, comme on dit. Et oui, j'articule pas beaucoup. Et je pense que ça a mis du temps à trouver ma voix VOIX aussi.
Où l'on apprend qu'on peut travailler donc sa voix inconsciemment.
Non mais oui. Parce que j'ai pas pris de cours et je me suis pas dit moi-même il faut que tu fasses ça.
Oui.
Au fur et à mesure, peut-être aussi c'est la vie, hein, tout court, qui fait que ça m'a apaisé.
Mais quelles sont les voix, ça c'est une question en sol majeur, qui font frissonner la chanteuse que vous êtes? Allons voir.
Please don't reproach me for how empty my life has become. I don't know what really happened. I watched your disappointment at being misunderstood.
P.G. Harvey, dans ses œuvres vocales pour un sol majeur, qu'est-ce que vous dites de ça, Dorothée?
Bah, c'est une des voix qui me touche, en effet. Il s'avère que j'avais fait même un documentaire radiophonique sur la voix. La voix, c'est aussi le miroir de notre âme. Et voilà, une voix comme celle de P.G. Harvey, elle est sans effet. Enfin, elle est brute. Elle nous raconte quelque chose. Donc, je suis, on va dire, plus attachée aux voix telles la sienne ou des Nina Simone, des Billie Holiday, où il n'y a pas d'artifice, en fait.
Côté The Rodeo, là, tout à coup.
J'aimerais, hein, mais là, je ne suis pas à ce niveau-là.
Piaf, donc en sol majeur, qui reprend le morceau de la bouche de notre cher Charles Aznavour. Petit hommage au passage. Piaf, c'est l'inimitable ?
Là, c'est quand on entend une voix comme ça, derrière, on entend la voix de la femme amoureuse, guerrière. Enfin, je ne sais pas, il y a 10 milliards d'émotions dans cette voix. Qui ne trompe pas, c'est pas du tout l'époque d'aujourd'hui où aseptisée, où les voix sont trafiquées. Là, ça nous transporte tout de suite.
Ouais, c'est une référence, hein, Piaf, pour vous. Je l'ai pas mis par hasard.
Non, c'est une référence. Ça peut paraître étrange. Alors, ma mère écoutait beaucoup Piaf aussi, mais ça me bouleverse. Oui.
Est-ce que vous avez imité des chanteuses avec la brosse à cheveux dans le miroir ?
J'ai beaucoup fait ça, c'est vrai. Je prenais même une raquette de tennis pour faire semblant que c'était ma guitare aussi. Alors j'ai essayé de pas trop imiter des chanteuses, Je pense que c'est le défaut au départ qu'on se met à chanter. On est plutôt dans l'imitation et on prend l'éthique aussi des gens qu'on admire. Il faut essayer de gommer ça. Donc ça peut mettre du temps, hein, ça peut mettre plusieurs années.
Donc on ne saura pas qui vous avez imité.
Non, mais surtout, je me suis jamais frottée à Edith Piaf, par exemple. Ça, je savais que j'en serais incapable.
Donc d'accord pour PJ Harvey et Piaf, mais quelles sont les voix, les autres voix qui font frissonner la chanteuse que vous êtes ? Bienvenue et Malhaba sur la terre du Hacheo, c'est un chant populaire qui est apparu au Vietnam au Xe siècle. Verdict métabolique pour vous, Dorothée ?
Ah, je trouve ça très joli. Non, je trouve ça très joli. D'ailleurs, on ne sait pas de quelle époque c'est au final.
Xe siècle.
Ouais, c'est fou, c'est assez fou.
Mais c'est... Alors, est-ce que vous diriez que c'est quoi ? C'est familier, mais c'est pas vous du tout ?
Bah, j'ai entendu une petite compilation de ces musiques-là pas plus tard que cet été dans la voiture de ma tante. Donc on peut pas dire que c'est complètement familier, mais c'est pas étrange pour moi.
Donc ça se résume à une compile pour vous,
une compilation.
Ce genre d'univers musical.
Oui, et puis bon, ça peut me rappeler ma grand-mère qui regardait beaucoup de films en vietnamien, mais c'est un peu des soap-opéra ou, comme on dit en Amérique du Sud, des télé-novelas, voilà. Des feuilletons à l'eau de rose. Et donc, bon, il y avait souvent des chants dans ces vidéos-là. Hein. Donc oui, ça me rappelle elle.
Est-ce que vous pensez, en tant que chanteuse, être d'abord une voix, d'abord des mots ou d'abord un univers musical ?
Alors, les gens me parlent souvent de ma voix. Alors après, j'espère ne pas ressembler à d'autres voix, à une autre voix. Donc, du coup, ça se rapproche de l'univers musical.
Est-ce que vous pensez ressembler encore moins aux autres depuis que vous écrivez en français ? Parce que vous avez commis 2 albums en anglais, hein, précédemment.
Certainement, parce que finalement, des groupes pop en anglais, il y en a encore plus. Donc le challenge pour moi, c'était de chanter en français avec ma voix que les gens connaissaient déjà et d'en faire quelque chose de singulier.
Et la clé de ce moment singulier de votre parcours, c'est donc ce nouvel album. La clé, c'est le titre, je dirais, de cet album avec... Thérianthropie Paradis, c'est-à-dire qu'il faut avoir Bac plus 5 hein, pour comprendre le titre.
Alors ne vous inquiétez pas, je ne connaissais pas non plus ce mot-là il y a quelques années. Hein. Thérianthropie, donc, il s'agit de la transformation d'un homme en animal. Et j'ai accolé ce mot paradis, c'est assez contradictoire, c'est assez étrange. Mais finalement, il y a une transformation, déjà plusieurs titres de l'album évoquent cette animalité, on va dire. Et aussi l'effet de transformation, d'une part, d'être passé de l'anglais au français, que ma voix s'est un peu modifiée pour ce disque. Donc c'est un petit peu tout ça, et c'est aussi jouer avec les mots.
Et si on pousse la métaphore, vous aimeriez être réincarné en quel animal ? Allons-y.
Oh, un tigre, voilà, quelque chose de robuste quand même, oui.
Jouer avec les mots, c'est vrai que ça se sent. On voit déjà au titre, que vous êtes une amoureuse des mots, Dorothée Hannequin. Candélabre, calypso, cryogénie.
Oui, c'est vrai.
Vous nous cherchez quand même.
C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours voir le sens tout de suite du mot. Il s'avère que candélabre, je ne sais pas, il est sorti comme ça parce que c'était d'abord quand quelque chose. Quoi. C'est un peu un jeu de piste, hein, finalement. Mais c'est vraiment la sonorité, les consonnes, quelque chose qui est péchu. Quoi.
Yeah.
collaboration. On sent bien que ça, c'est quand même une piste de travail pour vous. Est-ce que vous fonctionnez par thème ou au fil de la plume?
Oui, il y a quelques thèmes hein, quand même qui sont reliés les uns aux autres dans ce disque.
À savoir.
Bon, je suis assez, fascinée par la science, la médecine, enfin, les avancées scientifiques. Par exemple, cryogénie, il s'avère qu'on peut se faire cryogéniser aujourd'hui et puis se réveiller dans 30 ans. Hein. Bon, j'ai pas dit que ça marchait, hein. Mais je trouve ça assez fou. Et que ma mémoire vive, c'est suite à un article que j'ai lu sur des chercheurs, je crois que c'est au Canada, qui ont inventé un médicament pour effacer les souvenirs les plus douloureux suite à un viol, un attentat. Enfin voilà, donc c'est des questions comme ça qui me fascinent, quoi. Je n'ai pas la clé, je n'ai pas la réponse à cela, mais ça me fait peur et ça me fascine en même temps.
Bon, je pense que la question de l'identité n'est pas vraiment traumatique chez vous, mais est-ce que ça a pu être l'objet d'une chanson? Est-ce que ça pourrait l'être?
Oui, ça pourrait l'être. Ben, j'ai l'impression d'être une petite poussière dans ce monde, hein, quand même. Hein. Mais
bienvenue au club.
Oui, voilà. Même si, évidemment, on fait de la musique, on monte sur scène, les gens nous écoutent. Mais je me sens vraiment toute petite, quand même.
On va se plonger en sol majeur dans Cadavre exquis, qui commence par cette phrase que j'aime bien. La lumière du fort tournoie dans la nuit. Est-ce que c'est un peu comme des petits films que vous écrivez?
Ce titre a été écrit suite à un film d'ailleurs.
Lequel?
Alors un film qui s'appelle Grave. Alors je suis désolée, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais qui est sorti il y a 2-3 ans. Un film français, un film de genre, un film, j'irais presque gore en fait, sur le cannibalisme. Voilà.
Alors, donc, j'avais les images. Entre ça et cryogénie, commencez à nous intéresser.
Il y a de quoi faire hein, sur le point du cinéma.
Dorothée pour The Rodeo avec Cadavre exquis.
La lumière du feu. Tes yeux se ferment à l'approche du frisson. Le tonnerre et des frappes sans modération. Modération.
la lumière du phare, ça marche aussi, même si c'est la lumière du fort, tournoie dans la nuit, ou comment l'orage et la lumière sont dans les yeux des chansons de notre invité en sol majeur, The Rodeo. Démaquillée, ça devient Dorothée Hannequin, chanteuse folk au regard eurasien.
M comme métissage.
On est un peu à la maison là, on dirait, non? Pas loin de votre grand-mère vietnamienne.
C'est vrai, c'est comme si on l'entendait prier. Ouais.
C'est important, c'est significatif.
Oui, parce que je l'entendais dans sa chambre faire ses prières à longueur de journée, donc oui, ça me parle.
Mais c'est son univers.
C'est son univers, mais ça dépeint un peu sur soi quand même.
Ça déteint ou ça dépeint?
Je sais pas. Oui, j'ai voulu dire dépeint, mais c'est déteint. Mais déteint, ça a une connotation un peu négative en même temps. Mmh.
Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes approprié de cette culture, vous diriez?
L'esprit de famille quand même. Quand je dis l'esprit de famille, c'est les grandes tablées, les grandes réunions. Bon, il y a la nourriture aussi, qui a une place très importante. Je pense qu'il y a une certaine pudeur aussi, pudeur des sentiments. En tout cas, par rapport à ma mère, qui est cette espèce de... cet esprit de rebondir, en fait, de rebondir dans la vie, par rapport à son parcours, en tout cas. Elle m'a toujours dit, voilà, il faut... on peut toucher le fond, mais on peut, après, revenir plus fort. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu.
Qu'est devenue la langue ?
La langue s'est perdue, malheureusement. Je crois que, oui, pour ma mère, ça a été vraiment beaucoup de peine. Elle regrette même d'avoir perdu cette langue. De toute façon, elle était obligée de s'y plier, de se plier au français. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de transmission, en effet. Que ce soit d'ailleurs, tous mes cousins, cousines, il n'y a pas du tout eu de transmission.
Il y a deux attitudes, enfin il y en a sans doute plus, mais en tout cas deux grandes attitudes devant l'histoire du métissage. C'est soit c'est une quête, soit c'est le blocage total. Vous avez vécu ça comment ?
Alors, ce n'est pas un blocage, alors... Je suis plutôt à l'aise avec ça. C'est plutôt, oui, évidemment, on a envie de rechercher de là où on vient, vraiment.
Alors, vous qui avez été nourrie, vous ne l'avez pas dit, mais je ne sais pas comment je le sais, au nem et au couscous, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le couscous ?
Eh bien, il faudra demander à ma mère. Hein. Voilà, elle est tombée un jour sur un Marocain, et puis après, ils ont eu ensemble un enfant, ils ont eu mon frère. Et puis, comme ma mère est passionnée de cuisine, ça n'a pas loupé. Hein. C'est un mélange de cuisine vietnamienne, marocaine. Hein, voilà.
Alors, je ne sais pas si vous savez faire la cuisine vietnamienne, si ça vous passionne. En tout cas, regarder le cinéma asiatique, ça, c'est une de vos passions. Pourquoi ça vous passionne, ça ?
En fait, c'était à partir de... Quand j'étais ado, déjà, j'étais très cinéphile. Et puis, le cinéma asiatique, ça m'a tout de suite parlé. Alors, je ne parle pas des anciens, des Ozu et Kurosawa... que je connais très mal, c'est plutôt dans le cinéma contemporain. Je pense qu'il y a un fil conducteur peut-être entre tous ces différents réalisateurs, donc Wong Kar-wai, Park Chang-wook, Aung San Suu Kyi. Je dirais qu'il y a une espèce de sensualité, même des histoires d'amour, que ce soit violent, ou qu'il y a toujours des personnages très étranges. La famille est un sujet assez récurrent, les enfants et l'esthétique asiatique, ça m'a toujours attiré.
Donc il y a une possibilité d'identification, une petite zone possible d'identification.
Je pense, ouais, je pense.
Alors la passion, elle a été jusqu'où, vous diriez, avec le film, je sais pas comment je vais le prononcer d'ailleurs, Suzhou River de Lu Yi.
Alors ce film, Suzhou River, donc c'est une rivière qui traverse Shanghai en Chine. J'en ai écrit une chanson du même nom.
Et film des années 2000.
Hein. Oui, c'est un film des années 2000.
Film chinois.
Et un film chinois, et c'est l'histoire d'un type qui tombe sur une jeune fille, il tombe fou amoureux, mais elle disparaît dans cette rivière, et il est fou d'amour, et il la recherche partout, et il finit par lui-même aussi se jeter dans cette rivière. Voilà.
Si un jour je走了,你会像马达那样找我吗?会啊。会一直找到死吗?会啊。
你撒谎。他说就是住在附近的一个疯子，每天都骑一辆旧的摩托车经过我的阳台，说他一直在找他以前爱过的一个女孩。On the banks of the Suzhou River, people squelch about in muddy water. There's a rumor that a mermaid lives there. The brownish waves sweep the dirt in her hair. There's a man who stares at the streams. He lost his loved one on the tragic dark night out of love.
Pour un sol majeur un peu de Suzhou River, le film, et Suzhou River, la chanson que vous avez signée pour vous-même ou pour The Rodeo d'ailleurs ?
Pour The Rodeo.
Pour The Rodeo, Dorothée. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour le clip ?
Bah justement, une rivière. Donc je ne suis pas retournée dans cette rivière hein, quand même pour faire. C'est moi qui suis dans ce clip.
Vous êtes allé loin pour le faire ce clip ?
Oui, on est allé en Finlande, au bord d'un lac, et où je suis même filmée sous l'eau. Et après, en plus de ces images, j'ai voulu traduire les paroles de la chanson en chinois. J'ai demandé à un ami chinois de me traduire les paroles pour le mettre en sous-titre dans le clip.
Donc c'est quoi ? C'est la projection de votre ressenti, de votre fantasme de musicienne sur ce film ?
Oui, c'est un peu ça. En plus, l'histoire, en effet, il recherche... cette jeune fille qu'il a aimée, mais il voit le visage de cette jeune fille sur tous les visages féminins. Enfin, je trouvais ça, c'est très poétique, je trouvais ça magnifique. Et j'ai essayé de le retranscrire en images. Voilà, il y a une espèce de clair-obscur dans le clip. Et puis voilà, je suis comme une sirène échouée dans l'eau et on essaie de me sauver.
Mmh. Est-ce que la sirène a poussé le voyage jusqu'au Vietnam ou jusqu'au Cambodge ? Pourquoi pas ?
Non, pas encore. J'espère un jour y aller. Déjà, ma mère n'a jamais voulu y retourner. Donc,
vous savez pourquoi ?
Elle se sentait trop éloignée de ce pays, en fait. Pour elle, ça aurait été étrange qu'on lui parle en plus en vietnamien alors qu'elle ne comprend pas. Et pourtant, son visage dit qu'elle est vietnamienne. Hein. Donc non, elle n'a pas voulu. Donc du coup, je pense que même moi, je n'ai pas voulu y aller jusque-là. Et ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête quand même.
Parce que vous tournez un peu autour du pot,
un petit peu
vous avez été à Shanghai, en Thaïlande, en Chine.
Oui, et bon, c'est une Asie différente, mais mon père vit au Sri Lanka en plus, depuis 25 ans. Donc je vais souvent en Asie, c'est
comment
vrai.
Vous vivez alors ces pays asiatiques, vous l'occidental, l'eurasienne?
Bah, je m'y sens bien, mais je reste quand même une étrangère. La Chine est un pays à part quand même, c'est surtout dans les mégalopoles où on est plus face à des fourmilières, des gens qui ne nous regardent pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait me déranger. C'est-à-dire que nous, latins, on aime ça, le contact, le regard avec les gens. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi dans l'échange, en fait.
Alors, je ne sais pas si vous auriez aimé être la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhasa, au Tibet. En 1924, par exemple, comme une certaine Alexandra David-Neal, en tout cas vous m'en avez parlé, dont j'ai regardé, personnage incroyable, orientaliste, tibétologue, féministe.
Cantatrice,
elle a fait de l'opéra. Elle est née, je dis la date quand même, elle est née en 1868. Bien regardez cette date, elle est partie en 1969. Anarchiste également, elle se convertit au bouddhisme à l'âge de 21 ans. Et puis, en véritable exploratrice, elle va adopter un des jeunes lamas rencontrés lors de son voyage indo-tibétain. Et en 55, je vous la fais rapide, hein, mais c'est toute une vie, elle a vécu presque 100 ans. Donc vous voyez, en 55, elle raconte au micro de Michel Manol son périple qui a fait d'elle la première femme à être entrée dans la ville tibétaine de Lhasa.
Les Chinois, qui ne cessaient de guerroyer à la frontière orientale du Tibet, envoyèrent une expédition à Lhasa. Le Dalai Lama s'enfuit de nouveau, mais cette fois, ce fut du côté des Anglais qu'il se réfugia. Ceux-ci lui assignèrent une résidence à Darjeeling, et puis ensuite il alla s'établir non loin de là, à Kalimpong. C'est là que je le rencontrai pour la première fois. Et cette entrevue marqua une époque dans ma vie de voyageuse, car c'est elle qui fit naître en moi l'idée, qui ne m'était jamais venue jusque-là, de franchir les chaînes de l'Himalaya et de m'en aller voir au-delà ce qu'il y avait, c'est-à-dire de parcourir le Tibet.
La voix d'Alexandra David-Nil dans votre ensemble majeur, Dorothée Hannequin, c'est une drôle de voix. Hein. C'est une voix un peu corsetée dans un début ou une fin de siècle, c'est selon, mais capable en même temps de rencontre avec le bout du monde. Comment vous regardez cette femme ?
Bah, je suis assez fascinée par son âme humaniste, par la vie qu'elle a eue. Elle a vécu une centaine d'années, et puis c'était une exploratrice, une guerrière... On devrait même en faire un film. Hein. Je reviens sur ma cinéphilie, mais c'est un personnage extraordinaire.
Mais c'est surtout une femme occidentale qui a été capable de pousser la porte de cet univers.
Oui, où personne n'avait entré Lhasa jusque-là. Première femme occidentale. Elle a même été, s'est fait passer pour mendiante pendant des semaines et des semaines pour pouvoir y arriver. Hein. Elle n'était pas là avec son grand sac à dos d'occidental. Voilà, on lui a donné des vêtements pour être plus proche des Tibétains. Ouais, ouais.
Est-ce que comme cette aventurière, vous pourriez vous aussi un jour prendre votre baluchon pour vous installer dans un coin d'Asie pour un tout petit bout d'éternité ?
Je pense que j'en serais capable, ouais, c'est vrai. Je suis une grande voyageuse, j'adore les voyages. Je me sens pas d'attache particulière à... Évidemment, j'aime Paris, j'aime la France, mais je suis pas quelqu'un de matérialiste en plus, donc je m'imagine vraiment avoir juste un sac et partir.
Où ?
Bah, je ne sais pas.
C'est la seule question. Hein.
Bah, en tout cas, faire un petit bout de tour du monde, justement, pour trouver dans quel endroit me poser.
Dorothée Hannequin.
Oui.
Pour The Rodeo.
Oui. Pour l'instant, il est à Paris.
D'où Belleville ?
D'où Belleville, là où je suis. Je suis juste à côté de Belleville. Et j'aime aussi les endroits, on va dire, métissés, où il y a plein de langues en même temps, plein de nourritures différentes. Je trouve ça vivant, en fait.
À propos de sol majeur, est-ce que vous aimez bien vos pieds ?
Ah, les pieds. Ah oui, bah, c'est vrai que j'ai un truc avec les pieds. Alors, attention, hein, je dis bien au micro, je ne suis pas fétichiste des pieds. Ne m'envoyez pas de message à ce propos. Non, j'adore être pieds nus. J'aime. Alors, je pense que c'est propre à pas mal d'Asiatiques. Quand j'étais petite, je me mettais à genoux et avec les genoux à l'extérieur. Et voilà, je ne suis jamais très bien assise. Et puis, tout souvent, en train de me toucher les pieds dès que je suis chez moi, je déteste avoir des chaussures.
Très bien assise au milieu d'une famille très métissée. Hein.
Oui, c'est vrai.
Vous nous donnez la photo de famille pour qu'on voit un peu ?
Oh là là, bah, avec ma mère et ses 6 frères et sœurs, avec des franco-vietnamiens, des marocains-vietnamiens aussi. Donc oui, c'est une famille assez large. Et puis les grands-parents, s'ils étaient encore là, voilà, seraient au milieu, remplis de sagesse. Ouais.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à The Rodeo, avec Dorothée Hannequin, un troisième album, Terry Entropie Paradis. C'est fourni avec le dico ou pas ?
Ça me permet de discuter comme ça.
Absolument. À consommer sans modération. Un dernier biscuit musical peut-être avec un Otis Redding des familles ?
Ah, avec plaisir.
Qui c'est qui écoutait ça dans la famille ?
Ma maman, mais moi aussi, du coup. Un de mes chanteurs préférés.
Merci Dorothée.
Merci beaucoup.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Monsieur Lionel Trouillot. À demain.